Bonjour à toutes et tous, c'est Queen Jolinard et bienvenue dans la pastille X. Alors tout d'abord, je tiens bien entendu à vous présenter mes excuses pour cette longue absence. Ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de pastille X depuis l'épisode spécial sur House of X Powers of Ten. Je suis vraiment navré, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie personnelle sur lesquels je ne vais pas m'appesantir plus longtemps. Sachez que maintenant, c'est derrière moi, on va pouvoir reprendre un rythme, le rythme habituel, et on va commencer dès aujourd'hui. Et donc on va faire une pastille spéciale regroupant les sorties des semaines du 25 août et du 1er septembre 2021. Voilà, donc c'est-à-dire au programme Cable Reloading numéro 1, qui était un one-shot dans le cadre de l'événement The Last Annihilation, Wolverine numéro 15, Aliens numéro 15 et New Mutants numéro 21. Et allez, on commence sans plus tarder.
Hello Logan. How is this possible? As I told you a long time ago. You're not the only one with gifts.
Et donc on commence par ce one-shot, Cable Reloaded. La communication autour de ce numéro était vraiment très bizarre, on n'arrivait pas à savoir si c'était vraiment une suite à la série Cable initiale de Jerry Duggan, ou si c'était vraiment un one-shot qui se plaçait dans The Last Annihilation uniquement. Bon, on a la réponse en terminant de ce numéro, c'est bien un numéro, c'est bien un one-shot. Je dirais même plus, c'est un numéro de Sword qui cache bien son nom, puisque c'est scénarisé par Ali Wing, c'est dessiné par Robert Quinn, et c'est colorisé par Rava Tartaglia. Donc comme je le dis, c'est un épisode de Sword qui cache bien son nom. Pourquoi ? Ça part du principe très simple qu'à la fin de la série Cable, le jeune Cable est parti dans le futur reprendre un peu sa destinée initiale, et le vieux Cable ressuscité prend la place du jeune Cable dans l'organisation du Sword, hein, c'était le chef de la sécurité. Et comme le Sword est sollicité dans le cadre des événements de The Last Annihilation, Cable monte sa propre petite équipe de mutants pour pouvoir gérer une partie du conflit, un événement particulier. Ça reste un numéro extrêmement centré sur l'action, avec un Cable très militaire, très chef d'équipe. J'ai pas vraiment de passif avec le personnage et sur cet aspect-là, donc j'ai cru comprendre que ça reprenait un peu certaines dynamiques qu'il a pu avoir dans des séries comme X-Force par exemple, mais de vieilles occurrences de la série X-Force. Ça m'a plu, j'ai trouvé ça plutôt bien dessiné dans l'ensemble. Robert Quinn est aussi la personne qui dessine la série Way of X, pour rappel. Même si pour le coup on le sent moins inspiré, moins bon que sur Way of X, peut-être une question de délai. Peut-être qu'il n'avait pas forcément eu le temps de vraiment correctement le dessiner. Ce one-shot en plus se place entre le Way of X numéro 5 et l'épisode X-Men The Onslaught Revelation, que je chroniquerai dans une future pastille. Donc sur le dessin, c'est un peu décevant sans être non plus complètement à rejeter. Pour l'épisode en lui-même de Cable, vous pouvez le lire... si vous lisez The Last Annihilation, si vous aimez bien la série Sword, si vous aimez bien le personnage de Cable, mais en soi, en lui-même, c'est pas un indispensable, c'est pas un immanquable. Vous pouvez passer à côté sans avoir l'impression d'avoir loupé quelque chose vraiment. Je continue avec l'autre sortie du 25 août, qui était Wolverine numéro 15. On reprend la suite des événements précédents, à savoir que Wolverine est chargé d'enquêter sur le vol des cristaux qui étaient sur le bateau des Marauders, bateau qui s'est trouvé incendié dans le port de Madripoor. Donc c'est Wolverine qu'on en voit seul enquêter là-dessus, et il a fait la rencontre de Sevir Blackmore, qui est un pirate d'Araco, qui a décidé de s'installer à Madripoor. Et c'est l'occasion en fait pour ce personnage d'expliquer un peu son histoire, son passé, de le révéler, et d'expliquer aussi un peu des éléments du passé Et c'est l'occasion aussi de revenir sur le passé, sur l'histoire de Solem, le fameux mutant à la peau d'adamantium que l'on a croisé dans les événements de Ten of Swords, qui était un des personnages les plus intéressants de ce crossover, et j'y reviendrai bientôt dans un épisode spécial. Et donc, il s'avérerait, si on en croit Sévir Blackmore, que les cristaux ont été dérobés par Solem. Et donc Wolverine va se retrouver d'une part à affronter ce Sévir Blackmore, mais également à partir sur la trace de Solem et à nouveau l'affronter, comme ça avait été le cas dans le cadre de Ten of Swords. C'est un épisode sympathique en cela qui permet de développer un personnage qui était très intéressant lorsqu'il nous avait été présenté la première fois, qui permet aussi un peu d'évoquer l'histoire d'Arako quand cette dimension parallèle était isolée, mais aussi de développer l'idée que certains mutants d'Arako n'ont pas fait le choix d'aller s'installer sur la planète Mars comme la plupart, mais certains se sont dit que ça pouvait être intéressant de rester sur cette bonne vieille Terre et d'en explorer les bons comme les mauvais côtés. Donc il y a de l'action, bien entendu, ce serait dommage dans un épisode de Wolverine sans un peu d'action, mais Benjamin Percy se centre là sur son enquête et sur le développement de ses personnages, et c'est plutôt bien fait. Évidemment, on ne manquera pas de mentionner les superbes dessins d'Adam Kubert avec la colorisation de Frank Martin. Ils font un très très bon duo graphique sur cet épisode comme sur le précédent, et ça fait partie des très bons points de cet épisode de Wolverine. J'aurais tendance à dire que cet épisode est un immanquable si vous lisez la série Wolverine depuis les débuts, et si vous avez apprécié certains éléments de Ten of Swords, et en particulier le personnage de Solem. Voilà.
I'm just saying, Empire is still the best. It's the most complex, the most sophisticated. Wasn't afraid to have a dark ending.
Yeah, but come on, if it wasn't for the first one, you wouldn't have any of the rest of the movies.
Well, at least we can all agree the third one's always the worst.
Maintenant, on va s'intéresser à la série Aliens, qui est sortie le 1er septembre. C'est toujours scénarisé par Zeb Wells, c'est dessiné par Jorge Antonio et c'est colorisé par Rein Beredo. L'épisode prend directement la suite du cliffhanger du numéro précédent, donc à savoir que les Aliens sont en confrontation avec l'équipe de Tardian Caring, qui cherche à récupérer le matériel génétique dérobé par Sinister sur Arako durant l'événement Ten of Swords. Donc un autre, ça fait deux fois que je fais référence à ce crossover, comme quoi il n'a pas eu que des mauvais points. Et ça permet dans cet épisode d'une part de révéler que Psylocke est au courant de certaines manipulations de Sinister et n'a pas vraiment le choix que de les dissimuler au reste de l'équipe, et c'est également aussi l'occasion pour Sinister d'en dévoiler un peu plus sur ses plans à son clone qui avait été laissé pour mort sur Arako et finalement pris en charge, ressuscité par Tardian Caring, qui en a fait un peu son pion dans ce conflit. C'est toujours aussi sympathique. La série Aliens est sympathique. Elle n'est pas indispensable, elle n'est pas immanquable dans l'ensemble de la trame mutante, bien que on commence à vraiment voir germer ce qui était sous-entendu dans l'épisode précédent, des éléments qui avaient été posés dans la série Powers of Ten, et c'est bien que 2 ans après House of X Powers of Ten, on en est dans des répercussions, on revienne sur ces éléments, et surtout qu'on n'attende pas qu'il se passe des années dans la diégèse mutante pour les aborder. Donc c'est vraiment une série très sympathique, plutôt bien décidée, plutôt bien scénarisée. C'est pas une immanquable, mais si vous avez lu depuis le début, je vous conseille de continuer. Le ton est toujours là, fun, l'équipe est toujours assez intéressante à observer dans ses interactions. Chaque personnage a droit à son petit moment, à sa petite touche, et en plus Zeb Wells continue de nourrir certaines sous-intrigues, notamment autour du bébé robot qu'avait kidnappé Nani sans que personne n'en sache quoi que ce soit. Donc immanquable si vous lisez la série depuis le début, sinon c'est un à lire pour les autres. Voilà. Je pense pas que ça mérite de figurer dans toutes les bibliothèques, mais je pense que ça mérite d'être lu une fois. Et là, je parle autant de ce numéro que de la série en général. Voilà, c'est un peu mon avis global sur Aliens. Il n'a pas trop changé depuis quelques mois. Enfin, nous allons aborder le numéro 21 de New Mutants, série scénarisée par Vita Ayala, dessinée et colorisée par Rod Reis. Vous le savez, depuis que j'ai commencé les pastilles X, j'ai beaucoup de mal avec les séries New Mutants. Je reste toujours aussi peiné de ne pas réussir à apprécier le travail de Vita Ayala. C'est-à-dire que même si cet épisode est meilleur que les précédents, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses, il y a toute une intrigue sur la Lune avec une équipe menée par Warpath, encore une fois, Vita Ayala s'intéresse à la synergie des pouvoirs mutants et c'est vraiment super cool à voir. Et de l'autre, on continue l'intrigue autour de la mort de Gabby, de son lien avec le Shadow Lord, du lien aussi de Rain avec le Shadow Lord. Et enfin, ça y est, j'ai ma réponse. Le Shadow Lord n'est pas juste une vision, il se déplace, tout le monde est au courant qu'il est sur l'île. C'est juste qu'il est en train de manipuler une bonne partie des mutants, en tout cas des nouveaux mutants et des plus jeunes mutants, et que personne ne fait rien contre. Je trouve ça dingue en fait. Limite, en fait, j'aimais bien l'idée que le Shadow King puisse être une sorte d'entité dans l'ombre que tout le monde ne voit pas. Mais du coup, ça s'est retrouvé un peu en conflit avec une idée similaire avec la présence d'Onslaught dans Way of X. Et puis là, on découvre qu'en fait, non, le Shadow King, c'est un mutant comme les autres, quoi. Il est aussi présent qu'un Apocalypse ou un Sinister, pour citer d'autres vilains de la franchise mutante. Et il fait ça. Enfin, on peut supposer d'ailleurs qu'il est responsable de la mort de Gabby et personne ne fait rien pour et personne ne prévient le conseil. Je trouve ça assez dingue. Enfin, ça fait partie des éléments où je n'arrive pas à voir où Vita Ayala veut en venir avec ses personnages, ce qu'elle veut en faire, ce qu'elle veut leur faire faire, ce qui sont ses objectifs. Vraiment, c'est extrêmement frustrant. Mais, par contre, c'est un épisode qui est très intéressant sur un point, qui est revenir sur une notion qu'on avait pu voir dans les tout premiers numéros des séries mutantes, donc dans la période Dawn of X, qui était l'idée qu'on ne ressuscite pas les clones. Ça avait notamment été pas mal insisté dans les premiers numéros de Aliens, puisque Havok avait fait tout un plaidoyer pour ressusciter Madeline Pryor, qui on rappelle est un clone de Jean Grey, et de ce fait, on pensait que Gabby, qui est une clone de X-23, qui elle-même est une clone de Wolverine, n'aurait pas droit à une résurrection. C'était sans compter les 5, qui ont leur propre moralité, leurs propres ambitions, leurs propres objectifs, et qui du coup font le choix d'ignorer cet ordre. Et je trouve ça cool en fait, et ça montre encore une fois que tout n'est pas réglé en 2 ans en termes d'écriture, sans doute un peu moins en termes de diégèse, hein. On rappelle que le temps dans les séries Marvel est beaucoup plus élastique que le temps dans notre monde, hein. Et du coup, je suis très contente que ce point-là soit abordé et révisé grâce au cas de Gabby. C'est vrai que ça aurait été déchirant si le personnage n'avait pas pu revenir. Par contre, comme quoi il y a toujours un bémol, et ça c'est vraiment dommage, je pense qu'il y a une incompréhension du processus de résurrection du côté de Vita Ayala, parce que j'ai l'impression qu'elle a donné des souvenirs à Gabby juste avant sa mort, comme s'il y avait eu une backup de son esprit juste avant sa mort, ce qui rentre en contradiction avec le protocole de résurrection habituel, hein. C'est-à-dire qu'il y a une sauvegarde qui est faite à date fixe chaque semaine, peut-être plusieurs fois par semaine, et ou alors il y a peut-être une backup qui est faite avant un départ en mission, mais c'est tout. Là c'est Gabby ressuscité avec ses souvenirs de juste avant sa mort, ce qui n'est pas cohérent. Et ce qui est, c'est un peu dommage. Donc New Mutants, à lire, comme d'habitude. L'épisode est intéressant, donc je peux pas dire qu'il est à éviter, mais je peux pas aller plus loin qu'un à lire. Stryker came by today. Why is he bothering you after all these years? Because I'm the best there is at what I do.
What I do best isn't very nice.
You're not an animal, Logan. What you have is a gift.
A gift? You can return a gift.
Voilà pour cette fois-ci, merci beaucoup pour votre patience, pour votre attente, pour votre soutien, et merci bien entendu pour votre écoute pour cette pastille X-ci. On se retrouve très très rapidement dans moins d'une semaine pour la suite avec les sorties des semaines du 8 septembre et du 15 septembre. Il y aura à nouveau donc une grosse fournée de séries qui seront critiquées dans le cadre d'une pastille X, et également bientôt sera enregistrée la pastille X spéciale Ten of Swords. Merci encore, je vous fais des bisous. Ciao.